Et ciao, bonjour, bienvenue sur Radio Libertaire, la radio sans pub ni système hiérarchique. Entre les volutes de votre décoction du matin, le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue, Le Chiffon, vous propose aujourd'hui un petit voyage dans l'histoire avant de plonger dans le thème qui nous réunit. Une utopie humaniste qui pourrait bien voir le jour. Fermez un instant les yeux. À l'époque, Paris ne brûlait pas. C'était pourtant en 1944. Un communiqué fondateur voyait le jour, fixant les futures orientations qui nous amèneront au sujet du jour. Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est en effet qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde la preuve de son unité. Aussi, les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du Conseil national de la résistance, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. Au point 5 figure le vœu suivant. Afin de promouvoir les réformes indispensables, nous prévoyons sur le plan économique notamment l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchi de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Voici donc en substance ce que déclarait le Conseil national de la résistance il y a 80 ans. Gaullistes et communistes et tout ce qui se trouvait entre deux dans le spectre politique s'étaient mis d'accord sur ces grandes idées déclamées avec le lyrisme d'antan. Ce qui nous réunit dans ces studios a pour point de départ ce que je viens de vous lire. Vous ne vous y attendiez sûrement pas sur Radio Libertaire, en tout cas pas de bon matin, mais c'est bien la racine de notre thème du jour. Nous allons évoquer un concept encore éloigné des 20 heures et autres tabloïdes, sauf d'une autre, le chiffon, la sécurité sociale de l'alimentation. Et avant de vous présenter nos 5 invités, voici la déclaration d'intention commune. Présente sur le site de la Sécurité sociale de l'alimentation. En 1945, dans une économie pourtant exsangue, des hommes et des femmes engagés pour des jours heureux ont pensé un monde où toutes et tous pourraient se soigner sans distinction de classe. Ils ont bâti et défendu la sécurité sociale. À la place des politiques de réduction des inégalités ou des logiques de charité discrétionnaire chères aux libéraux, ils ont créé du droit à partir d'un système universel. Quelques décennies plus tard, nous revendiquons le même engagement pour l'alimentation. Que le droit soit le socle de toutes les politiques alimentaires et agricoles à venir. À mes côtés ce matin, 4 acteurs de la sécurité sociale de l'alimentation. Le premier, Jean-Marie Coutard, membre de la commission... SSA, on dit, mais nous essaierons de répéter ce vocable qui est encore trop peu présent sur les ondes ou ailleurs. Donc de la commission de la sécurité sociale de l'alimentation, des amis de la Confédération paysanne. Vous intervenez notamment sur les marchés paysans et dans des coopératives autogérées de Saint-Denis. Bienvenue à vous.
Merci de me donner la parole. Effectivement, on intervient sur des marchés paysans, on intervient à l'occasion de demandes de communes qui veulent développer ce concept face à l'aide alimentaire qui ne trouve plus ses réponses et qui ne fait que se développer face à la précarité, notamment économique et sociale des populations. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient sur ce thème.
Merci. Marion Pellissier, également membre de la dite commission et d'un supermarché coopératif, boulevard de Charonne.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui.
Bonjour.
Le supermarché coopératif s'appelle Les 400 Coop. Effectivement, il existe depuis 3 ans maintenant. Donc, je suis préoccupée par les problématiques de l'alimentation et de l'accès à l'alimentation. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai intégré, je suis devenue membre des Amis de la Confédération Paysanne et que je suis devenue membre du collectif SSA, parce que je trouve que c'est une super idée et j'avais envie de travailler là-dessus, sur ce concept.
Merci. Et enfin, nous accueillons Martin et Corinne de la Conserverie Solidaire, collectif d'habitants qui s'occupe de la récupération d'invendus alimentaires, légumes et fruits, pas toujours présentables, mais toujours mangeables. Bienvenue à vous.
Oui, bonjour, merci. Nous, en fait, on s'est rassemblés entre groupes de potes au départ pour récupérer des invendus de légumes et de fruits et légumes. Et on s'est vite rallié à la SSA parce que on a trouvé que c'était un concept hyper intéressant et qui parlait à beaucoup de monde en fait quand on leur expliquait ce que c'était et qui avait un gros potentiel.
Merci beaucoup. Et enfin, il en reste un et non des moindres annoncé en dernière minute. Loïc, cofondateur de la coop Commins d'Ivry, premier gérant élu, ex-sociétaire actif d'un supermarché coopératif et participatif. Merci d'être là.
Donc, COP commun, merci pour l'invitation. Et du coup, effectivement, nous, on est un collectif d'acteurs du territoire et on s'est donné comme mission de créer les conditions pour l'émergence de communs, c'est-à-dire d'organisations basées sur la propriété collective, pour pouvoir, générer le terreau favorable à cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation.
Eh bien, merci à tous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, et nous aurons de quoi discuter, une petite réaction avec les deux déclarations que j'ai mises en parallèle à 80 ans de distance. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Personne n'était né en 44.
Petite déclaration, simplement par rapport à cette question des communs, on voit bien qu'il y a un délitement de cette idée d'universalité, de démocratie sociale au niveau de la sécurité sociale, dès 1967, où les partenaires sociaux, notamment, ont été exclus de la démarche, et on a un retour de l'État. Avec plus la démarche qu'il y avait précédemment, avec un retour du patronat dans la gestion des cotisations de façon plus globale. Et là, on est à nouveau dans une volonté de remettre les citoyens au centre de la démarche, et notamment dans un cadre où l'aide alimentaire, les gens ne sont plus dans cette démarche-là, parce qu'ils subissent, et l'objet, c'est de les réintroduire dans une idée de démocratie sociale sur leur territoire.
Une autre réaction de démocratie, nous en parlerons longuement. Loïc, pardon.
Allez-y. La sécurité sociale, oui, effectivement, c'est même dès 1959 que la sécurité sociale s'est pris des coups de butoir, si je puis dire, puisque déjà à ce moment-là, au départ, à la base, lorsqu'elle a été créée, les caisses étaient composées de quand même de 75% de salariés. Et en 1959, et le directeur a été élu par ses membres et par les membres des caisses. Et en 1959, il a été décidé non pas que ce serait un élu qui dirigerait les caisses, mais quelqu'un qui serait nommé par l'État. Donc effectivement, depuis 1959, ça a été des coups de butoir sur coups de butoir, ce qui fait qu'on arrive à la situation actuelle où la sécurité sociale n'est plus à l'image de ce qu'elle était quand elle a été créée et des objectifs qui avaient été mis en place.
D'accord, donc le chantier est long. Loïc, vous souhaitiez
une réaction, peut-être un petit coup de pub aussi pour l'ouvrage de Nicolas Da Silva, La bataille de la sécu, qui retrace en fait l'histoire des aides sociales depuis la Révolution française et qui explique bien que toute l'histoire est faite non pas d'une opposition du privé et du public, mais de l'auto-organisation citoyenne contre le public et le privé qui font un seul et même bloc. Donc c'est bon, ici je pense que la majorité des auditeurs sont presque des convaincus, mais l'ouvrage explique très bien tout en détail cette construction-là et la réelle histoire finalement basée sur les archives.
Est-ce que vous évoquez un moment la dichotomie entre l'élection, finalement, et la nomination? Très bien. Mais je vous remercie pour cette première réaction. Nous allons entamer le cœur du sujet, mais si vous êtes déjà réveillé, j'ai évoqué en début d'émission le nom du chiffon, et je me dois de dire pourquoi nous sommes réunis. Le Chiffon, donc le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue, tenu par des petites mains venues de tous horizons. Un journal d'actu au temps long, de l'actu plus tiède, loin de la dernière polémique qui peut se relire bien après sa parution. Pour venir nous découvrir ou nous rejoindre, chaque nouvel arrivant apportant son souffle, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, le-chiffon@riseup.net. Une ligne éditoriale peut-être ? Oui, gardez au moins un sourcil sur deux de froncer sur ce qui est toujours présenté comme le progrès. Mais ce matin, les deux sourcils, je dois le dire, resteront statiques tant l'idée mérite au moins d'être examinée. Nous parlons donc de la sécurité sociale de l'alimentation. Le concept de droit à l'alimentation nous vient de Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies, qu'il définit comme un droit d'accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une nourriture quantitativement et surtout qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Alors à cette première définition qui est tout de même tout à fait satisfaisant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour compléter ?
Oui, enfin, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on peut faire le constat que le droit à l'alimentation n'est pas respecté en France, puisqu'on peut dire qu'il y a assez peu de personnes qui ont accès à une alimentation de qualité qu'ils choisissent. Et que les systèmes mis en place, comme l'aide alimentaire, pour éviter que les gens meurent de faim, sont des systèmes qui les maintiennent à vie, mais on est bien loin du droit à l'alimentation.
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a l'exemple de l'aide alimentaire du style les Restos du Cœur, le Secours Populaire, etc., où il y a des gens qui vont se retrouver constamment avec les mêmes produits de mauvaise qualité, par exemple des patates, ou des produits qui sont en fin de vie, donc des légumes pas en bonne santé, etc. Et donc, c'est toujours les pauvres qui se retrouvent avec des mauvais produits et qui mangent mal. Et après, on va faire la morale aux gens de dire ils savent pas s'alimenter correctement. Voilà.
Oui, peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas toujours conscience, mais il y a des recherches en fait qui ont montré, s'il fallait le montrer, mais que l'aide alimentaire fait partie en fait du système agroalimentaire. Puisque finalement le système agroalimentaire c'est une machine énorme qui surproduit pour pouvoir vendre, et en surproduisant ça coûte extrêmement cher au système de cette surproduction. Et donc finalement de pouvoir écouler par de l'aide alimentaire qui en plus fait l'objet de crédits d'impôt, finalement l'aide alimentaire aide plus les bénéficiaires, l'industrie alimentaire que les bénéficiaires directement. Donc c'est aussi un enjeu, c'est de pouvoir sortir de cet argument-là de « on résout la question du droit à l'alimentation en faisant de l'aide alimentaire ».
En fait, l'aide alimentaire, c'est devenu l'aide alimentaire, c'est devenu un système en tant que tel. C'est devenu une filière de l'agro-industrie qui sert à la fois comme régulateur des flux de production, l'agro-industrie, et d'autre part, qui permet effectivement aussi aux distributeurs des grandes marques de défiscaliser à 75% leurs invendus aussi, quoi. Donc non seulement c'est une filière qui rapporte à ces gens-là, mais en plus ça fait que l'État perd des recettes qui devraient justement dédier à des développements de politiques publiques alimentaire ou autre. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un système avec un puits sans fond, puisque l'aide alimentaire, le nombre de personnes qui vont à l'aide alimentaire augmentent de façon exponentielle d'année en année. On l'a vu avec le Covid. On est passé de 9 millions de personnes à l'aide alimentaire aujourd'hui à 12-13 millions de personnes, avec un appauvrissement généralisé de toutes ces populations, et eux-mêmes, et même les producteurs, par ailleurs eux-mêmes, qu'on saigne par le biais justement de l'agro-business et des gros distributeurs, quoi.
Alors je vous propose qu'on revienne à ce thème juste un petit peu tout à l'heure. Je voulais juste resituer un petit peu dans votre déclaration d'intention, en tout cas de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous vous présentez un petit peu comme une société d'horizons divers. Je vous cite, nous, en écriture inclusive, c'est important de le préciser, nous, paysans, agronomes, citoyens, précaires, chercheurs, entrepreneurs, commerçants, appelons à la création d'une sécurité sociale de l'alimentation. Vous-même, autour de cette table, vous êtes d'horizons très différents. En quoi ce projet fédère autant de profils variés selon vous, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'avenir et peut-être vos chances de succès?
Pour rebondir sur ce propos, je pense que c'est une vision transversale à un moment qui est le moment avec la difficulté qu'on a au niveau sociétal actuellement, avec une précarisation de plus en plus importante d'une partie de la population dans les quartiers populaires notamment, mais même avec un appauvrissement aussi également de certaines classes moyennes qui sont sur le fil. Donc cette transversalité justement, et c'est le propos que je tenais précédemment sur le fait aussi que il y a de plus en plus de gens qui vont à l'aide alimentaire, même s'ils ont des salaires qui sont quand même insuffisants, puisque là c'est, d'où le principe de la problème de la répartition de la richesse, etc., qui génère ce genre de choses, que ça soit en milieu rural qu'en milieu urbain. À côté de ça, effectivement, on parlait des producteurs, les petits producteurs, mais les gros producteurs eux-mêmes sont en difficulté parce qu'ils font de tels investissements qu'ils n'arrivent plus à dégager des marges d'autofinancement suffisamment importantes sur leur exploitation, d'où la crise des producteurs aussi, avec des problèmes dramatiques quant à leur capacité à dégager même de l'autofinancement pour faire vivre leur famille, pour certains. Et là, quelle que soit la taille des exploitations, et je dirais que les gens au circuit court s'en sortent mieux.
Peut-être pour compléter, nous on aime bien, on s'appuie notamment sur un modèle qui a été travaillé par les chercheurs autour de la conduite du changement, qui travaillent sur la résistance au changement et qui ont mis ça sous forme d'équation. VIP est supérieur à R, qui est la résistance au changement. V pour vision. Donc du coup, on a cette vision avec la sécurité sociale. I pour insatisfaction. Donc on a cette insatisfaction à la fois du côté de l'alimentation, du côté de la précarité, du côté des agriculteurs. Et P pour plan et premières actions, et on a la chance d'avoir l'exemple du passé qui a mis ça en place sur 5 branches, parce qu'on parle beaucoup de la santé, mais c'est 5 branches qui ont certes été dénaturées, mais qui ont pu être mis en place, et donc qui donnent une réalité, aussi à la capacité de passer à l'action.
Et vous, dans votre coop, quelle est la sociologie de vos collègues? Est-ce que vous venez d'horizons différents?
Nous, effectivement, on vient d'horizons très différents, à la fois en termes...
Vous-même qui venez d'un supermarché coopératif, c'est ça, je le rappelle.
Effectivement, déjà, en fait, on est issus, donc les personnes qui sont issues du supermarché ont déjà des profils très différents. Et en tant qu'acteur de la coopération sur le territoire, on mixe autant des très petites associations, des très grosses associations, des acteurs économiques, des acteurs publics. Et justement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le langage commun entre ces cultures, et la sécurité sociale déjà facilite énormément dans ce langage commun qui permet d'entrer dans une perspective commune.
Peut-être à la conserverie, un petit mot sur... un langage commun que vous essayez de trouver?
Le langage commun, c'est la nourriture, parce que c'est quand même... on fait 3 fois par jour des repas, donc c'est hyper important. Et quand on ne peut pas manger suffisamment, on le ressent. Et donc, nous, on est surtout des étudiants issus de... Enfin, des étudiants, et généralement, on a quand même réussi à manger correctement comme on pouvait, mais on a quand même vu des potes et d'autres étudiants qui galéraient. Et donc, surtout là, avec le Covid, on a entendu plein d'étudiants qui faisaient la queue, qui n'étaient pas capables de à la fois faire leurs études, travailler pour se payer à manger et payer leur appart. Donc, c'est quelque chose de commun, en fait, la galère parmi les étudiants. Et surtout pour se nourrir, donc c'est forcément ça parle à tout le monde.
Pour compléter rapidement, et parce que c'est un peu dans le thème de la question, je crois, on n'est pas uniquement des étudiants, on est des étudiants, des ex-étudiants, et on a aussi une variété d'âges différentes dans la conserverie. On a des vieux, des jeunes, on a des gens qui sont habitants de Saint-Denis depuis longtemps, on a des gens qui viennent d'arriver. Et je pense que la nourriture, c'est vraiment un domaine qui peut rassembler. Et quand on fait un repas, c'est toujours régulièrement au quotidien, c'est des moments conviviaux. Je pense que la nourriture, c'est quelque chose de convivial. Et ce qu'on a envie de construire aussi avec la sécurité sociale de l'alimentation et avec la conserverie, c'est un mouvement qui soit convivial.
Ok, très bien. Je vous remercie. Toujours sur les thèmes, nous aborderons un petit peu plus votre pratique quotidienne au travers des différentes associations pour lesquelles vous œuvrez. Mais est-ce qu'il y a eu un consensus sur le terme de sécurité sociale, qui est quand même du coup chargé historiquement, on l'a vu. Est-ce qu'il y a eu des dissensions, peut-être d'autres propositions, ou est-ce que le terme de sécurité sociale s'est imposé Loïc, peut-être, je vous vois hocher la tête.
Nous, il n'y a pas eu trop de débat. Je pense que justement, le terme en lui-même et au-delà du terme, c'est le concept finalement qui est raccroché encore une fois à l'histoire, comme on l'a dit, qui charge déjà de sens et qui fait que voilà, on a besoin de toute façon d'un changement de paradigme et on a besoin, comme je le disais aussi, de recettes d'une certaine manière parce que ça fait peur de changer. Et donc du coup là, on a à la fois un changement de paradigme qui s'annonce et qui est crédible et donc ouais, non, il n'y a pas eu trop de débat.
Oui, pour compléter ça, moi je ne sais pas s'il y a eu des débats à la base parce que j'étais pas à la base, mais en tout cas, le terme s'impose de lui-même et ce qui est très parce qu'en fait, il est complètement inspiré du modèle de la sécurité sociale de la santé. Et quand on parle aux gens de sécurité sociale de l'alimentation et qu'on leur dit, eh ben ça fonctionnera comme la sécurité sociale de la santé, mais les gens voient tout de suite comment ça fonctionne. Ils arrivent tout de suite à raccrocher au principe de, on va sûrement revenir sur les grands principes, mais ils se rendent bien compte que tout le monde cotise et en fonction de ses moyens, tout le monde a droit tout le monde a un accès aux soins, quels que soient ses revenus. Il n'y a pas une sécurité sociale pour les riches, une sécurité sociale pour les pauvres. Et il y a un système également de conventionnement, c'est-à-dire qu'on est remboursé seulement si on va voir tel praticien, les praticiens sont conventionnés. Voilà. Donc les gens comprennent tout de suite comment ça peut fonctionner et on effectue assez facilement la transposition sur l'alimentation, en fait.
Vous parliez d'être là à la base et j'aimerais un petit instant, nous marquerons une pause dans une dizaine de minutes, mais qu'on revienne un instant sur la genèse du projet. Donc, étiez-vous déjà présent en 2015 lors des rencontres de la solidarité internationale et de la citoyenneté, organisées notamment par Ingénieurs sans frontières, peut-être pas. Pour rappel aux auditeurs, il s'agissait d'évoquer un fonctionnement démocratique de l'économie suite aux travaux, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, du réseau Salaria et de Bernard Friot, l'un des pères de la sécurité sociale de l'alimentation, en tout cas le premier à l'avoir médiatisé par la suite. Je résiste à dire SSA, mais bon, pour des raisons pratiques dans l'émission, nous allons devoir utiliser l'abréviation. C'est en 2018 que le projet commence véritablement à s'esquisser. Et où en étiez-vous à l'époque de votre réflexion personnelle à propos de tout ça? Est-ce que vous étiez déjà un pied dedans, peut-être juste dans le monde agricole ou intéressé?
Oui, moi j'étais déjà un pied dedans puisque en fait je viens d'une famille d'agriculteurs. Et mes parents ont participé à la création de la Confédération paysanne, hein, qui est simplement un acteur qui où les gens ont une conscience sociale et ont une conscience sociétale. Ce sont des militants. Ils ne font pas que produire de l'alimentation. Ils produisent de l'alimentation pour des territoires, au service des territoires, et dans un concept qui est l'agriculture paysanne. Hein, donc une agriculture dédiée aux besoins, en termes de dégagement, de flux financiers, de la famille. Voilà, donc on est loin de l'agro-business et de la mondialisation au niveau de l'esprit. Donc on est... avec pas mal de gens qui étaient au niveau de la Confédération paysanne, qui étaient proches de Bernard Lambert dans le Maine-et-Loire, des gens qui étaient plutôt des agriculteurs de gauche, CCFD, Chrétiens du Monde Rural, des choses comme ça, des gens donc très engagés avec des visions de l'économie populaire par ailleurs. Voilà.
Et du coup, sur la finalité de votre projet, j'ai envie de citer le président de la République lors de la pandémie. Je vous les guillemets. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais bien des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe, fermez les guillemets. Alors, la pandémie est déjà de l'histoire, hein ? Oui. on est déjà dans l'histoire et le monde d'après ressemble légèrement au monde d'avant, mais vous êtes-vous pris à imaginer, voire rêver, allez, osons les grands mots, au moment de la pandémie et des annonces du président, peut-être une autre agriculture, une autre manière de produire, c'était déjà en 2020, on a l'impression que... C'était au siècle dernier.
J'ai jamais cru aux propos du président, mais je pense que tout.
Pas qu'aux propos du président, c'était un petit peu partagé au moment où nous étions chez nous, le monde allait changer,
oui,
les oiseaux revenaient dans les rues.
On avait quand même de grandes raisons de douter que le discours ne prendrait pas trop d'autres formes que le discours. Mais moi, pour ma part, la première fois que j'ai entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation, c'était en 2021, lors des journées d'université d'été à Nantes. Et c'est vrai que ça a été un petit peu comme un choc. C'était un atelier et je me suis dit, ah ben voilà des perspectives. Enfin voilà, c'est ça, ça a ouvert des perspectives. Enfin, on va lutter pas seulement contre des choses, pas seulement pour garder ce qu'on a, nos acquis, etc. Mais on va pouvoir lutter pour un projet, quelque chose qui peut changer, qui a un vrai levier de changement. J'ai trouvé tout de suite que ce projet avait une force de proposition qui m'a tout de suite conquise.
Allez, nous sommes cinq dans un tout petit studio, c'est difficile. Allez-y.
Rappelle-nous la question, c'était de réagir par rapport aux propos du président.
Non et de non non surtout ce qu'avait occasionné la pandémie en vous. Comment vous êtes arrivé à la SSA et comment vous êtes.
Moi, à titre personnel, j'ai commencé le militantisme à Paris 8. Je précise que j'étais pas étudiant à Paris 8 à ce moment-là et je ne travaillais même pas encore là-bas parce qu'il y avait un collectif le collectif d'abord de Paris 8 qui faisait de la récupération alimentaire. Ça m'a tout de suite plu et en fait la conserverie ça a été créé après et on s'est rendu compte en découvrant la SSA qu'il y avait d'autres collectifs qui promouvaient une démocratie alimentaire, qui promouvaient une souveraineté alimentaire. Le collectif de la fac de Paris 8 dans lequel j'ai commencé à militer réellement, il s'est créé pendant la pandémie. Donc je pense qu'il y a probablement une espèce d'émulsion qui s'est produite à cette époque. Je ne sais pas exactement comment, mais ça a créé quelque chose chez les gens qui se sont dit « Allez, il faut faire quelque chose, là, on a un peu de temps libre et en même temps les gens sont en galère financière, on peut peut-être... » assembler ces deux aspects et faire quelque chose.
Oui, et donc, pour revenir sur comment j'en ai entendu parler, la SSA, c'est surtout par un pote qui fait partie de la conserverie solidaire et qu'on a entendu parce qu'il traîne un petit peu dans ces réseaux-là. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en entend parler autrement que par des grandes institutions ou on entend parler par des potes. Et en fait, comme ça concerne tout le monde et que... on est tout de suite intéressé par ce type de projet de base et donc donc c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui peut se transmettre autrement que par des réseaux bien structurés, mais plutôt quand on rencontre des gens dans la rue ou dans des moments militants ou à la fac, voilà.
Et vous parliez d'émulsion tout à l'heure, juste pour que l'auditeur se rende compte un petit peu. Sur le site de la SSA, vous vous présentez un peu comme un socle au service du débat d'idées. qui n'est pas fini, comme me disait encore Loïc tout à l'heure. Tout le chantier reste à construire, mais on peut citer Ingénieurs sans frontières Agrista, Réseau Salaria qu'on évoquait tout à l'heure, Réseau Civam, la Confédération Paysanne, le collectif Démocratie Alimentaire, l'Ardeur, l'UFAL, Mutual, l'Atelier Paysan, les Amis de la Confédération Paysanne. Et j'en oublie, j'invite l'auditeur à aller se renseigner, mais avez-vous des contacts un peu entre différents acteurs? Est-ce que peut-être il y en a un qui vous plairait de présenter au micro brièvement avant de faire une petite pause?
Je sais pas, il y a VRAC notamment qui crée des centrales d'achat sur les quartiers populaires, justement, qui ressemblent un peu dans leur façon de faire, un peu aux coopératives autogérées de Saint-Denis, sauf que c'est au sein des quartiers populaires et c'est en lien avec la politique de la ville pour compléter de l'aide alimentaire et en lien avec des épiceries sociales, des choses comme ça. Voilà, donc ils sont en train de se développer pas mal au niveau national et ils ont rejoint aussi comme le mouvement des AMAP par ailleurs le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation et l'ensemble des expérimentations qui sont en cours, quoi.
C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un acteur de l'aide alimentaire qui a rejoint le collectif. Parce que les gens de l'aide alimentaire, les bénévoles, sont dans des véritables souffrances également. Ils se rendent bien compte des limites de ce qu'ils font. Ils se rendent bien compte que ce qu'ils font, c'est en même temps indispensable parce que sinon les gens n'auraient pas à manger. Mais en même temps, ils s'aperçoivent bien que c'est pas une réponse satisfaisante. Donc ils sont eux-mêmes très, très, très mal dans leur fonction. Et donc c'est intéressant parce que VRAC nous a rejoint, ce serait bien qu'il y ait d'autres acteurs de l'aide alimentaire qui nous rejoignent également.
C'est un appel pour éviter le burn-out militant des futurs acteurs de la SSA. Alors avant d'entamer le cœur du sujet et les piliers sur lesquels il repose, pour finaliser votre réveil, retrouvons-nous dans un court instant au son de UB40, référence au système d'allocation chômage britannique avec le bien nommé classique Food for Thoughts. voilà en terre d'Île-de-France. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire pour l'émission du Chiffon, le journal indépendant de Paname et sa banlieue. Il s'agit ce matin d'évoquer une idée du futur prenant racine il y a 80 ans. La sécurité sociale de l'alimentation. Et petit correctif, il ne s'agit pas du site officiel de la SSA, mais le site du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, dont j'ai 5 acteurs. Mais c'est un collectif qui rassemble des gens venus de tous horizons, nous le disions il y a un instant. Donc voilà un projet qui est encore au stade de l'utopie et qui fera sûrement parler à l'avenir s'il parvient à se hisser au devant d'une scène médiatique déjà saturée par bien d'autres choses. Directe héritière de ce qui a marché pour la santé, mes 5 invités autour de la table prônent ou en tout cas défendent une alimentation de qualité accessible pour tous. Et pour lancer un beau pavé dans la mare et introduire votre présentation du concept, j'aimerais vous livrer une citation du sociologue et économiste qui a été l'un des premiers à médiatiser l'idée, un des collaborateurs de la notion, vous compléterez mon propos dans un instant, le professeur Bernard Friot, qui résume le marché agroalimentaire de manière, on peut dire, cinglante. Et je cite... Il y a bien un domaine où l'on constate que le marché, laissé à lui-même, fait n'importe quoi. C'est bien la production alimentaire. Il tue les paysans et les agriculteurs, massacre les sols, nous gave de pesticides et de malbouffe. Et en plus, il y a encore des gens qui crèvent de faim, tandis que l'on détruit un tiers de la production excédentaire. Une folie qui ne peut décemment plus continuer longtemps. Fermez les guillemets. Fort de ce constat, entre le taux de suicide des agriculteurs, l'usage des produits chimiques, toutes les maladies liées à la malbouffe, on peut dire que le résumé est efficace, et nous en parlions tout à l'heure hors micro. J'imagine que vous avez des petites réactions sur cette première définition, qui est sûrement à compléter, sur l'état du marché agroalimentaire aujourd'hui.
Peut-être oui sur les constats qui font partie d'ailleurs du socle commun puisque tout le collectif une des premières pierres qu'il a posées c'est poser les éléments qui font consensus entre toutes les structures sachant qu'il reste comme on le disait beaucoup à faire mais ces éléments là et notamment ce constat que il y a des enjeux qui sont commun à la fois du côté de la production alimentaire, donc l'agriculture, et du côté de la consommation, donc l'alimentation, et que ces deux éléments doivent être adressés simultanément pour pouvoir répondre aux enjeux des deux, en fait.
Oui.
Donc c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'aide alimentaire. En fait, l'aide alimentaire, c'est un système qui n'a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'a actuellement pas vocation à disparaître, pas vocation à faire disparaître la pauvreté. Si on laisse les choses dans l'état, il va se perpétuer parce qu'il est parfaitement inclus dans ce système agroalimentaire dont tu parlais. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il a parfaitement sa place dans le capitalisme. Ça permet à la fois de se débarrasser des excédents et en même temps de pas se pencher sur les vrais problèmes concernant l'alimentation.
Eh bien, ça nous amène directement au premier pilier de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous en avez 3. Et le premier est l'universalité. Certains soutiennent l'initiative d'inscrire la sécurité sociale de l'alimentation dans la Constitution. Et sachant que pour modifier la Constitution, il faut réunir le Congrès, donc soit le Sénat et l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez des députés ou des sénateurs avec vous ? Est-ce que vous avez des tentatives d'approche ?
Effectivement, on a des députés, des sénateurs, on a de plus en plus de demandes, même de formation au concept de sécurité sociale de l'alimentation de la part de différents groupes politiques qui sont très intéressés dans la mesure où eux-mêmes, sur leur territoire, ils montent des plans alimentaires territoriaux et ils se posent la question aussi des limites de l'exercice en termes de financement, de conventionnement sur leur territoire. Voilà.
plutôt de quelle couleur politique? Est-ce que vous avez, à l'instar de vos, des membres qui composent...
Ça serait plutôt des groupes politiques, de LV, des communistes, etc. Mais aussi, aujourd'hui, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, des socialistes aussi, LFI, effectivement, s'intéressent au concept, puisqu'ils sont en train d'essayer d'avoir un système global qui, au-delà de l'aide alimentaire, pourrait remettre les citoyens dans la boucle de l'alimentation, quoi. Et notamment, qu'on regarde sur Paris, qu'on regarde sur d'autres territoires, la question de l'acquisition de fonciers agricoles, l'installation de paysans... et de plus en plus à l'ordre du jour, d'autant plus que il y a plus que 400 000 paysans sur le territoire national. Dans 5 ans, il y en aura plus que 300 000. Donc le pays va tout droit vers des difficultés à pouvoir fournir une alimentation de qualité en masse suffisante pour sa population, au-delà d'une industrialisation qui serait encore plus croissante de cette alimentation, avec les perversions dont on a parlé tout à l'heure, avec des grandes surfaces de plus en plus gérables, la création de sociétés, etc., sur lesquelles on pourra peut-être revenir par la suite, quoi.
Très bien. Donc, sur le paysage politique qui vous soutient, en tout cas, on est loin de l'unité de 1944. Malheureusement, Loïc, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, peut-être pour rebondir, parce que... On a ce sentiment un peu, comment dire, habituel de se dire les changements vont venir par la politique. Et j'aime bien, justement, pour revenir à ce fameux Bernard Friot, qui est assez structurant quand même dans ses travaux, puisqu'il s'est basé sur les archives. Il réexplique que le passage du système féodal au système bourgeois, c'est pas fait par la Révolution française, comme on peut le croire, mais il y avait tout qui était prêt de manière économique avant. Donc c'est d'abord une transformation économique, une révolution économique qui amène une révolution politique. Et donc, je pense qu'il faut... Certes, il y a un travail qui est à faire sur le droit, et il faut l'amener, mais si on n'a pas le terreau et l'adhésion populaire qui permet cette transformation, on met la charrue avant les bœufs. Et peut-être pour compléter aussi, il y a une grosse récupération politique actuelle du côté de la droite, de la gauche, pardon, parce que c'est un enjeu qui est aussi très facilement médiatisable, il faut y aller avec des pincettes sur toute la dimension politique. On fait bouger des lignes, mais voilà, enfin, c'est pas être pessimiste de dire ça, c'est être réaliste aussi.
Également pour ajouter encore, je vais encore citer les travaux de Bernard Friot, parce que même dans le passage, enfin quand la sécurité sociale a été mise en place, donc en 46, ça s'est pas fait comme ça à partir de rien. Il y avait il existait des tas de caisses de solidarité qui existaient au niveau local, et c'est un petit peu ça qu'on essaye de créer au niveau de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire que il y a énormément d'initiatives locales qui ont rejoint le collectif, d'ailleurs maintenant, puisque le collectif on a fusionné entre les organisations nationales et les initiatives locales développées un peu partout en France, dont les plus connues, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les plus connues sont celles de Montpellier, par exemple. Et donc, il s'agit bien de s'appuyer sur les retours d'expérience de ces initiatives locales, qui ne peuvent pas expérimenter la SSA telle qu'on l'imagine, parce que tous les paramètres ne sont pas réunis, notamment celui de la cotisation, enfin celui du financement, mais qui néanmoins met en place déjà des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer lorsque le moment sera bon pour changer d'échelle.
Et on parle de mettre en place des choses. Venons-en à la mesure peut-être concrète pour que l'auditeur ait une idée tout de suite utilisable par son imaginaire. Vous proposez de sanctuariser un budget pour l'alimentation de l'ordre de 150 euros par personne. J'ai vu des fois des propositions divergentes, mais enfin c'est le chiffre qui revient le plus souvent. 150 euros par personne et par mois, et de l'intégrer donc au budget du régime général. Comment est-ce que vous avez budgétisé tout ça? Est-ce que c'est encore en débat sur cette somme?
C'est un panier moyen hein, par rapport à ce que pour couvrir les besoins alimentaires alimentaires sur un mois et par personne qui a été choisie quoi. Voilà. Par contre, ça prend en compte simplement la partie alimentaire. On n'est pas dans le système de la sécurité sociale de la santé ou le budget qui a été octroyé initialement sur cette question-là a permis du fait de l'arrivée des cotisations massives de structurer la politique de la santé jusqu'à la recherche avec la création des CHU, etc. On n'en est pas là sur la structuration de filières, etc. qui pourrait être généré par ce système à terme. L'idée, dans un premier temps, c'est avec ces 150 euros d'apporter un minimum de produits alimentaires de qualité choisis par la population en fonction de ses usages sur le territoire et quelle que soit les cultures de ces personnes. Voilà.
Et quels que soient les revenus de ces personnes, c'est aussi important parce que on a parlé tout à l'heure du principe d'universalité et on n'a pas trop développé. En fait, quand on parle d'universalité, ça veut dire que ces 150 euros, c'est pour les riches comme pour les pauvres. Il ne s'agit pas de faire une politique spécialement pour les pauvres.
Vous avez deviné la suite de mon conducteur, toujours sur les déclarations de ce collectif. Je vous cite, hein, une politique pour les pauvres reste toujours une pauvre politique qui veut construire du droit propre à un mécanisme pour tous, quel que soit son statut. Personne ne doit se sentir assisté aujourd'hui. Personne ne se sent assisté quand il utilise sa carte vitale chez le médecin parce que tout le monde y a le droit. Et doit en être de même pour l'alimentation, d'après votre collectif. Tout mécanisme discriminatoire, même positivement, reviendrait à mettre un post-it sur la tête des moins riches d'entre nous, à leur faire subir la violence du contrôle, du statut de leur pauvreté qu'ils ne peuvent définir, en d'autres termes, à en faire des inégaux en droit. Et on a, oui, cette métaphore de la carte vitale qui est tout à fait parlante. Je rebondissais sur ce que vous venez de dire. Mesdames, messieurs de la conserverie, l'un des piliers qui fondent votre projet, c'est bien de permettre à des personnes en situation de précarité d'accéder à bas prix à des produits de qualité issus de cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les gens à qui vous distribuez Alors, vous êtes au stade de la confiture et des pickles, donc des légumes dans du vinaigre, mais vous avez vocation... distribuer demain des...
Alors, notre façon de fonctionner pour l'instant ne correspond pas aux objectifs de la SSA, dans le sens où on n'a pas de conventionnement, on fonctionne différemment. C'est pas des gens qui vont nous donner une carte. On va distribuer un peu... on est un petit collectif, donc on distribue un peu... On se concerte entre nous, on se dit, bon, on fait où notre prochaine distrib, parce qu'on a des stocks un peu réduits. Mais on s'est donné comme objectif déjà de base de ne pas faire de la charité, de ne pas faire de l'aide alimentaire qui pourrait être vue comme paternaliste. Du coup, dans cette démarche, on va distribuer à des profils variés. On a distribué à des étudiants, on a distribué à des mineurs migrants en difficulté. On a aussi distribué dans des cercles un peu moins défavorisés, comme des cercles militants. On a participé à l'organisation et à la nourriture sur des événements militants, etc. Pour l'instant, on est très variés et on ne limite pas notre distribution à des gens qui seront pauvres. Voilà.
Mais aussi, en fait, le fait d'intervenir dans des lieux aussi variés, c'est de rencontrer des gens variés et de rencontrer des gens, enfin, pas de terrain, mais qui vivent réellement certaines choses et d'entamer la discussion avec eux d'entamer la discussion avec plusieurs types de personnes et qui sont tous concernés par la même question. Et donc, ce côté universel, c'est de dire que tout le monde est concerné par cette question de la nourriture. Et en plus, c'est quand même un moyen de toucher des personnes qui sont dans la précarité, tout en les ciblant pas spécialement. Voilà.
Je peux poser une question ? Oui, vous les distribuez gratuitement ou à prix libre ?
On les distribue gratuitement. Et par contre, on fait des crêpes prix libre pour nous financer nous-mêmes, mais sinon, les bocaux sont distribués gratuitement.
Et du coup, c'est un peu une des idées centrales de cette solidarité pour peut-être, j'allais employer un gros mot, mais vendre l'idée au plus grand nombre de proposer ces mêmes 150 euros à tous les foyers. Et on y reviendra tout à l'heure, il y aura un système de... Oui, tous les foyers, toutes les personnes,
un foyer
y compris les
personnes,
enfants.
C'est 4 fois 150 euros.
Oui, tout à fait. Mmh. Et ensuite, d'un système de cotisation dégressive selon... Mmh. Et y a-t-il des débats là-dessus? Est-ce qu'il y a des oppositions peut-être d'une partie de la gauche qui s'insurge
Je ne connais pas les débats sur le principe de l'universalité. Bien sûr, il y a des gens qui disent, mais pourquoi on va donner de l'argent aux riches? Mais bon, effectivement, on a quand même des arguments qui tiennent la route. Et je sais plus, je voulais préciser une chose, mais j'ai oublié.
Oui, peut-être pour compléter, il faut différencier ce qui est distribué de ce qui est cotisé de l'autre côté. C'est-à-dire que là, pour le coup, sur la cotisation, on cotise en fonction de ses moyens. Oui. Et donc du coup, là, il y a une vraie différenciation entre ceux qui n'ont pas du tout les moyens et qui vont potentiellement pas cotiser, à l'extrême, et ceux qui ont clairement beaucoup les moyens et qui vont fortement cotiser. Donc c'est là où la différence se fait.
À mesure de ses facultés contributives, comme on dit en droit fiscal.
C'est un peu ce qui est déployé dans les expérimentations. Hein. Par exemple, sur Montpellier, il y a des cotisations de 1 à 100 euros en fonction des capacités des personnes. Et la caisse de solidarité, elle est alimentée aussi par des contributions publiques. C'est ce qui permet d'avoir une capacité de répartition de la même somme pour l'ensemble des 400 foyers qui vont rentrer dans cette démarche aujourd'hui sur cette caisse de solidarité à Montpellier qui fonctionne au niveau démocratique avec les assujettis, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas les gens engagés dans cette démarche, les 400 foyers sont aussi des acteurs engagés dans la caisse dans la gestion de la caisse locale et des conventionnements. Donc il y a une démarche d'auto-formation mise en œuvre autour de tout ça.
Peut-être pour compléter, je pense qu'il faut bien différencier la visée, le modèle, et les expérimentations, qui sont deux choses très différentes. Et aujourd'hui, l'universalité, elle est impossible à court terme, puisqu'il faudrait reposer sur la cotisation qui devrait se faire à échelle nationale. Donc voilà, il y a à la fois la visée qui se construit et les expérimentations qui sont, elles, là, à l'échelle locale. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais pour finalement accompagner la transformation et l'acculturation. C'est l'éducation populaire, hein. C'est un levier d'éducation populaire pour la transformation globale.
Et vous introduisez... Pardon, ma dernière question, mais si vous avez... Vous vouliez
rebondir, allez-y. Je voulais dire que ça permet d'expérimenter surtout le fonctionnement démocratique aussi. Et ça, c'est important, parce qu'on n'est pas vraiment habitué, on n'a pas appris ça à l'école.
Oui, un autre pilier. Et justement, vous me relancez très bien toutes les deux. L'universalisme, ok, très bien, on s'adresse à tout le monde. Mais tout à l'heure, on m'a objecté qu'il y avait une certaine dimension paternaliste à l'éducation, à l'alimentation. Mais en tout cas, je soutiens... Et je lance la polémique, vous pourrez me contredire, que tout le monde n'a pas appris forcément à bien manger, qu'il est difficile des fois de savoir même éduquer son palais, apprécier, le premier, il n'y a pas aucun mépris de classe ou autre. Est-ce que vous avez aussi cette dimension pédagogique, notamment peut-être dans les écoles, éduquer dès le plus jeune âge, à éduquer ses papilles à autre chose que... Je ne vais pas citer de marque, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête?
Il y a le collectif Les Pieds dans le Plat qui fait tout à fait ce genre de travail, notamment auprès des cuisiniers, des lycées, des collègues, des collèges, sur le bien manger, la nécessité de travailler des produits frais, des produits alimentaires de qualité, et une éducation au goût qui se fait auprès des élèves, qui vont jusqu'à former les cuisiniers sur ce sujet, avec des conventionnements, que ça soit au niveau des villes, hein, on peut citer la Romainville qui est dans ce type de démarche aujourd'hui, ou d'autres, ou les collèges, quoi, par exemple, et d'autres lycées.
Je voulais simplement préciser que dans cette démarche de la SSA, on a prévu, parce qu'on a parlé de conventionnement, on n'a pas beaucoup parlé de conventionnement, mais en fait les produits conventionnés seraient conventionnés par des caisses qui sont en fait des caisses de conventionnement qui sont des assemblées de citoyens. tirés au sort. Et on a prévu, alors tout n'est pas ficelé, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est des choses qui sont encore en cours de travail. Mais on a prévu en tout cas qu'il y ait des étapes d'éducation populaire, justement, partant du principe que personne n'a envie de manger les pesticides, a priori, et personne n'a envie de s'empoisonner. Donc si on informe les gens, si les gens sont vraiment informés et éduqués sur les enjeux de l'alimentation, sur tout ce qui est tout le contexte social, etc., on peut penser, on peut faire le pari qu'ils feront les bons choix. Voilà.
Pour réagir juste à ça, j'ai l'impression quand même que c'est pas tout à fait le cœur du problème. En tout cas, j'ai le sentiment que la plupart des gens, en tout cas des adultes, pas pour parler des lycées et des collèges, ça c'est un autre problème, mais en tout cas pour les adultes, j'ai l'impression que la plupart des gens savent comment bien manger, et la plupart du temps, ils ont surtout pas les moyens, ou pas le temps, ou pas l'opportunité, parce qu'il n'y a pas de commerce correct dans les environs, et j'ai l'impression que si on donnait les moyens aux gens de bien manger, ils mangeraient bien.
D'ailleurs, ils mangent bien par définition, puisque quand on va voir sur les traditions culinaires dans les quartiers populaires, les plats sont notamment faits par les adultes, les grands-parents et tout ça sont très savoureux. Il y a un art de la table, en région Île-de-France, notamment dans les métropoles, qui a une diversité incroyable. Donc on se heurte aussi avec la précarité alimentaire à une perte des savoir-faire par rapport aux générations qui arrivent et qui mangent, eux, très mal, parce qu'effectivement, les parents, étant dans des situations de précarité aussi économique, les gamins vont au McDo, etc., etc., et ils perdent aussi, il y a une perte en ligne de ce savoir-faire cette qualité de l'alimentation au niveau des jeunes générations, avec les drames au niveau de la santé que ça génère, quoi.
Peut-être pour rebondir, parce qu'on parle de l'éducation au goût. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est éduquer, puisque il y a une logique aussi d'autonomie. Il n'y a pas de logique descendante, mais le plus gros enjeu, il est, comme tu le disais, d'apprendre la démocratie, parce qu'en fait, à aucun endroit dans la société, on est habitué à vivre en démocratie, c'est-à-dire à partager des idées contradictoires, à partager la parole, à construire, à décider ensemble. Et tout ça, là, c'est le plus gros enjeu, et à politiser dans le sens où on va critiquer aussi les informations qu'on a. Et
décidément, vous savez tout à fait bien lancer mes interventions. La démocratie, on en va en parler après juste un court instant musical, avant d'évoquer la démocratie et le dernier pilier de la SSA. Et je vous propose un son hors sol, parce que je me suis cassé la tête et que la programmation musicale ne doit pas toujours se rapporter au thème du jour. Un petit son parfait pour prendre la route du blues moderne. Je vous propose d'écouter Charlie Crockett, Traveling Blues.
Traveling, baby, I ain't got no place to go. I've been traveling, mama, I ain't got no place to go. I've been everywhere, little darling, but I don't wanna go no more. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. Now I'd like to settle down, darling, but I ain't got no happy home. Thank you.
place to stay. I've been telling mama I ain't got no place to stay. I got telling on my mind, guess I'll be on my way. So sorry, so sorry, but now I got to go. So sorry, so sorry, sweetheart, but now I got to go. Tomorrow, baby, I'll be a long way down the road.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire à parler du monde de demain, qui n'est ni l'album bien connu, ni un slogan de start-up, mais celui qui verra peut-être le jour avec la sécurité sociale de l'alimentation, thème du jour de l'émission du Chiffon, cette feuille de chou qui peut s'enorgueillir d'être le journal de Paname et sa banlieue. Nous y avons d'ailleurs consacré tout un dossier dans notre dernier numéro d'été. Le second pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, avec cinq de ses avocats ici présents dans les studios. Le conventionnement organisé démocratiquement, c'est une idée qui est revenue juste avant la pause et qui est revenue tout à l'heure en off quand nous en discutions. Vous parlez beaucoup d'éducation à la démocratie, quelque chose qu'on nous a pas vraiment appris, si peut-être en cours d'éducation civique, juridique et sociale, une heure par an en sixième, c'est génial. Donc c'est au cœur du projet et vous n'avez de cesse de répéter des prises de décision collégiales et une demande du concours de tous les acteurs et consommateurs à ce processus décisionnel. Je sais que pour vous réunir les membres de la conserverie, il y a eu toute une prise de décision pour savoir si vous pouviez venir, quoi dire, etc. Donc si vous voulez réagir un petit peu rien qu'à votre venue ici, qui n'a pas été forcément évidente.
En tout cas, juste pour dire que le processus démocratique en soi, c'est pas si simple à appliquer. Là, nous, on est très peu nombreux, donc ça... C'est facile au niveau des discussions, mais quand on commence à être même une dizaine de personnes, faut pouvoir argumenter. Et donc, c'est quelque chose qui se construit et c'est une grosse question à pas éluder dès le début et à toujours garder en tête et à revenir à chaque fois constamment et pas se dire bon bah maintenant on a décidé que c'était comme ça, c'est figé. Et donc c'est vraiment quelque chose qui se construit. À la fois théoriquement, on va dire, dans les décisions, mais aussi dans la pratique, dans les expériences, donc comme fait la SSA avec ses expérimentations. Et justement, des expériences, on peut tirer d'autres expériences et des conclusions et des choses à changer à ce moment-là.
Oui, Martin.
Je ne sais pas, Corinne, si tu peux expliquer concrètement, du coup, les dispositifs qu'on a mis en place ou ce qu'on fait pour la démocratie. Enfin, ce que toi, tu viens de dire concrètement, comment ça se traduit dans le groupe, comment on s'organise.
En fait, à chaque réunion, on pose la question de s'il y a un problème, si on ressent qu'il y a un manque de de participation de chaque personne, et s'il y a quelque chose à rajouter, s'il y a quelque chose à modifier. On essaye de faire des groupes, qu'il y ait deux personnes qui interviennent dans les interventions, qui interviennent dans les événements. Bon, là, ça pose pas trop la question de la parité parce qu'on est en fait autant de filles que de garçons, mais donc on avait une idée quand même de faire des binômes mixtes pour garantir quand même la parité laisser ouvert la question, quoi.
Et ça se retrouve un petit peu partout dans votre projet, et notamment chacun devrait s'approprier les enjeux, vous appelez ça comme ça, de souveraineté alimentaire, et que les besoins doivent être définis collectivement. Donc ce serait un conventionnement organisé démocratiquement, comme on le dit, et ce serait l'idée que la libre concurrence, finalement, ne donne que très peu de place à la production d'aliments de qualité, et surtout pas de choix aux consommateurs qui se retrouvent un peu J'ai l'image du lapin dans les phares de la voiture. Mais comment s'opérerait dans le futur, concrètement, cette désignation des aliments à consommer, cette votation de ce qu'on voudrait consommer, parce que le « on » est un petit peu le pronom.
Je voudrais remercier chaleureusement Emmanuel Macron pour une chose qu'il a fait bien, c'est de mettre en place la Convention citoyenne pour le climat.
Ah oui.
Ça n'a rien donné. On est d'accord, il n'a rien fait de ça. Mais ça nous a au moins montré une chose, c'est que quand on réunit 150 personnes, je crois que c'est 150, hein, d'horizons variés, de profils variés, tirés au sort, on les fait travailler sur la base de thématiques, de sujets, on leur donne accès à des interventions, à des intervenants qui vont les éclairer sur ces sujets. Eh ben, il en ressort que, a priori, ils font les bons choix. Et ça, c'est super parce que je me raccroche beaucoup à cette idée-là, que les gens, a priori, vont faire les bons choix s'ils ont les bonnes informations. Et je crois que le problème, c'est que les gens, la plupart du temps, n'ont pas forcément les bonnes informations. Voilà. Donc c'est ça. Donc moi j'ai confiance dans ce fonctionnement démocratique des CAES qui serait constitué de gens tirés au sort et auprès de qui il y aurait un véritable travail de réflexion autour des enjeux de l'alimentation.
Donc des gens tirés au sort, une éducation populaire et soyons dans le concret parce qu'on va nous reprocher que c'est une somme de belles idées qui peuvent être récupérées, on le disait tout à l'heure. Mais du coup, les acteurs, les producteurs, futurs producteurs, pourraient être conventionnés sur la base de leurs pratiques correspondant à un cahier des charges qui serait proposé ou d'engagement dans une transition de système de production. Est-ce que vous auriez des exemples de mention de ces cahiers des charges? Est-ce que ce serait l'absence de pesticides, je pense à l'évidence, ou la manière de produire, le coût énergétique?
Ça en fait partie effectivement quoi. Et puis le fait de choisir des producteurs aussi qui correspondent effectivement aux besoins définis par ce collectif d'habitants qui va voir sur le territoire ou à proximité du territoire les producteurs qui peuvent répondre à ces besoins. Donc ça veut dire aussi que ces choix-là, ils vont s'opérer dans un premier temps sur des produits élémentaires, sur un bassin de vie, et dans un second temps, une fois que tu as rempli les besoins sur certains produits et par rapport à d'autres que tu peux pas trouver sur le bassin de vie, aller voir sur d'autres bassins de vie qui pourraient être aussi intégrés dans un système plus global au niveau national, au moins dans un premier temps. Mais ça, c'est, voilà. Je sais pas, tu veux compléter.
Non, peut-être. Enfin, redire que, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à ne pas rentrer dans le détail avec des exemples concrets, c'est que la théorie fait consensus, les modalités pour le mettre en œuvre, c'est les expérimentations qui vont nous donner aussi les orientations, et c'est les caisses en elles-mêmes, en fait, qui vont décider de ce qu'elles mettent dedans. Alors, les critères pour donner, enfin, c'est effectivement tout ce qui peut caractériser à la fois le producteur et caractériser le produit. Et pour donner un exemple plus sur la question de la modalité, pour revenir encore aux mêmes personnes, mais Bernard Friot, puisque c'est un des influenceurs, soutient l'enjeu de faire un conventionnement des producteurs plutôt qu'un conventionnement des produits pour éviter la récupération. Parce que si on conventionne des produits, ben on peut avoir, comme ça se fait aujourd'hui dans la santé, les gros de l'industrie pharmaceutique qui peuvent se refaire le business sur du coup la sécurité sociale, et donc du coup on détourne complètement le système. Donc et ça, c'est encore une fois, c'est une visée. Mais à court terme, on a, je ne sais pas si c'est le moment pour en parler, mais on a eu une expérimentation du collectif qui est dans le 12e, la Marmite Rouge, qui a mis en place ce qu'ils ont appelé très bien marketé la baguette magique, donc autour d'un produit pour le coup, donc en contradiction avec cette visée. Mais à court terme, ça fait sens, et c'est finalement assez malin d'aller chercher un produit qui parle à tout le monde, qui est majoritairement acheté, et d'en faire un levier de transformation et d'éducation populaire. Mais du coup, il ne faut pas se tromper sur la vocation. C'est-à-dire que dans leur cas, l'éducation populaire est l'objectif premier et ce n'est pas le système en lui-même qui est l'objectif. Donc
si je me reporte à ce que vous disiez tout de suite qui était passionnant, à terme, ce ne sera plus la baguette qui sera magique, ce sera le boulanger qui sera vertueux, qui sera conventionné, qui a vocation, si je comprends bien,
c'est
ça.
C'est un peu le cas dès aujourd'hui, puisque c'est les baguettes tradition qui ont été choisies avec un ensemble de boulangers à proximité de la Marmite Rouge dans le 12e arrondissement, quoi, quand même. Donc il y a quand même une idée de produit de qualité. C'est pas le produit de premier prix qui était choisi, c'est quand même un produit qualitatif avec 100 personnes qui ont été choisies dans la rue, interpellées pour se lancer dans la démarche et des boulangers qui ont été convaincus à l'issue d'un plaidoyer aussi des militants de la Marmite Rouge, quoi.
Oui, parce que si on conventionne un produit et que le produit est acheté par la grande distribution, on va retrouver le produit dans les rayons de la grande distribution. Or, il n'est pas question que ces 150 euros aillent à la grande distribution.
Oui, c'est ça aussi, c'est une circularité de l'argent vertueuse, loin des groupes dont j'aurais pu ni à citer le nom. Pour poursuivre un peu le sujet, je vous invite à lire les déambulations au sein d'une AMAP de Saint-Denis, d'une de nos chiffonnières favorites, une dionysienne passionnée, qui écrivait dans nos colonnes, dans notre numéro d'été. Le temps commence à nous presser, je vais arriver au dernier pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, à savoir le financement basé sur la cotisation sociale. Alors bon, c'est un peu plus austère que les grands principes d'universalité. Donc on le disait, vous préconisiez 150 euros par mois et par personne, enfants compris, et ça représente plus ou moins un budget annuel de 120 milliards d'euros, soit 8% de la valeur ajoutée produite en France. On n'a pas d'études, nous en discutions en off, sur les conséquences de la malbouffe au niveau prise en charge de la sécurité sociale générale. D'ailleurs, j'invite, si jamais nous avons des sachants qui nous écoutent, à prêter leur concours à ce beau projet dont nous nous entretenons ce matin. Mais en dehors de Monsieur Friot, du professeur Friot, vous évoquiez tout à l'heure qu'il y a d'autres penseurs de cette sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce qu'il y en a un avec que vous souhaiteriez mettre en lumière ce matin?
Je crois qu'on peut parler de Mathieu Dalmet, qui est membre qui a initié les travaux sur ce projet en tant que membre de Ingénieurs sans frontières, Ingrista. Et donc il a fait des travaux de recherche sur cette idée-là, et il a rejoint ensuite les travaux de Bernard Friot. Et ils ont travaillé ensemble ensuite. Et on peut aussi parler de Jean-Claude Balbeau, qui est un paysan retraité, qui est maintenant membre de l'atelier paysan. Et donc il y a aussi qui est une figure de proue, je dirais, du projet. J'ai envie de parler également, puisqu'on est dans les dans les citations, de Bénédicte Bonzi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aide alimentaire. Et en fait, elle a fait un gros travail de recherche. Enfin, elle en a fait l'objet d'une thèse et maintenant d'un livre d'ailleurs. Et sur le système aide alimentaire. Et
la construction des violences alimentaires, voilà, notamment, c'est l'objet de son,
ce qu'elle appelle les
de
violences
sa thèse.
Alimentaires.
Oui, tout à fait. Qui d'ailleurs est interviewée dans nos colonnes. On y revient dans un instant. Je voulais juste parler encore un tout petit peu gros sous pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'une déclaration d'intention, mais ce projet se veut également dépourvu d'une sorte de mainmise de l'État sur le processus, et vous souhaitez que l'argent ne transite pas dans les caisses directement de l'État par le biais de l'impôt ou de la taxe, mais bien d'une cotisation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. Donc ce serait le mécanisme le plus approprié pour défendre votre organisation démocratique de l'économie. Et est-ce que ce point a été facile à... C'était facile de statuer sur ce point, sachant que la différence entre taxes, cotisations, etc. n'est pas forcément évidente pour tout le monde.
Disons qu'on réinvente pas l'eau tiède non plus. Hein. On s'inspire aussi de l'histoire et nos aînés ont aussi statué sur ces choses-là. Et l'enjeu, c'est une taxe. En fait, elle légitime l'acteur qu'on taxe, puisqu'il a besoin d'être là pour récupérer, donc du coup on est obligé de le développer. Donc la cotisation, c'est effectivement un système, et c'est pour ça que le système de la sécurité sociale est tant attaqué, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, ça ne passe pas par les caisses de l'État, et ça représente un budget qui est supérieur, en tout cas pour les cinq branches actuelles, qui est supérieur au budget de l'État. Donc c'est effectivement des gros sous, et sur l'alimentation, ça sera forcément des gros sous, mais en tout cas tout l'enjeu, c'est de pouvoir se baser sur, c'est là où on en revient notamment à tout le travail, encore une fois Bernard Friot, mais c'est son travail, c'est sur la question de la valeur et du travail. En fait, la sécurité sociale, elle questionne les fondements du travail et donc la production de valeur. Et donc la cotisation, c'est tirer de la production de valeur une partie qui va sur l'alimentation. C'est ça l'enjeu.
Et une cotisation qui pourrait être minime, correspondant aux fameux 150 euros ou supérieur à la dite cotisation, qui serait beaucoup moins inégalitaire finalement qu'une TVA que nous payons tous. Et c'est 19%, 19,6%, peut-être même que... Oui, 19,6%, on est toujours.
La cotisation, il varierait en fonction du montant aussi, que ce soit au niveau du salaire ou de la valeur ajoutée des entreprises. Hein. Donc, et tout ça qu'on constituerait la somme globale recueillie et après dispatchée sur les bassins de vie avec une gestion au niveau local de ces cotisations et des conventionnements par la suite, quoi.
En fait, les cotisations, c'est une partie de la valeur ajoutée, c'est une partie des richesses produites par une entreprise qui est socialisée. C'est ça, les cotisations.
Peut-être pour revenir, ce qui est important, c'est que la cotisation, c'est une des conditions, si ce n'est pas la condition, de l'universalité. Et c'est ça aussi qui est important. Et elle se bat contre un autre modèle qui est d'ailleurs souvent défendu par la gauche, qui est d'avoir finalement une base minimale. Donc c'est ce qu'on a avec le RSA, c'est ce qu'on a avec tous ces mécanismes-là. Et après, un accès qui est basé sur « j'ai cotisé, j'ai droit ». Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça. Et il y a une cotisation qui fait que on n'est pas en proportionnalité de ce que j'ai cotisé. C'est décorrélé. On décorrèle et c'est donc je cotise en fonction de mes moyens et je j'utilise en fonction de mes besoins.
C'est la solidarité.
Okay. La solidarité. Donc, bon, on a balayé les trois piliers. Malheureusement, il faudrait 3 heures d'émission. On va arriver vers la dernière partie de cette émission. Je voulais un peu vous demander, du coup, vous faites le parallèle avec le revenu universel de Benoît Hamon qui lui a occasionné le succès qu'on connaît. Est-ce que vous vous heurtez à la dérision de vos adversaires? Vous parliez qu'il y a toute une partie du spectre politique qui ne vous suit pas du tout. Comment vous vivez ça en tant que militant?
Je sais pas, on se heurte pas d'entrée de jeu au spectre de politique qui se heurterait à cette réflexion. Hein. Le Conseil national de l'alimentation a émis un rapport justement sur les comment se sortir aussi et comment réfléchir autour de cette question de l'aide alimentaire et les perspectives. Hein. La sécurité sociale de l'alimentation a été évoquée dans ce cadre. Hein. Bien évidemment. Les acteurs que sont la FNSEA et l'État veulent pas s'engager. Par contre, ils ne peuvent pas non plus empêcher l'expérimentation sur les territoires. Donc aujourd'hui, quand on regarde les AMAP sur les territoires, on s'aperçoit que sur certains territoires, les AMAP, comme certaines dynamiques de santé publique avec le regroupement des moyens face à la paupérisation des territoires au niveau de la santé, c'est devenu un fait politique, que ça soit de droite ou de gauche, les maisons de santé. Personne aujourd'hui ne trouverait à redire sur les maisons de santé, alors que les dispensaires de santé publique, etc., mis en place effectivement aussi dès 1945, on voit que dans des départements très populaires, ils ont largement contribué à absorber la précarité des populations comme des moyens de réponse à ces populations. Tant et si bien, effectivement, que ce modèle, aujourd'hui, il est devenu transversal. Et plus personne ne le remet en cause. Quand, par exemple, quand une municipalité est perdue par l'EPC, l'EPS ne détruit pas les dispensaires de santé. Voilà, quand ça, ni sur d'autres territoires, quand il y a des politiques de droite qui arrivent, ils ne détruisent pas non plus les dispensaires de santé, puisque ça vient compléter les défaillances de la médecine libérale. Voilà, sur ces territoires. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que les AMAP, qui étaient largement, il y a 15 ans et jusqu'à maintenant, des choses qui étaient considérées par comme des bidules, par des acteurs publics et syndicaux, aujourd'hui, sur des territoires, il y a des syndicalistes qui sont aussi des producteurs qui sont bien contents de trouver les AMAP à proximité de chez eux pour vendre une partie de leur production. Voilà. Donc, voilà.
Je sais pas. Martin, vous souhaitiez réagir?
C'est vrai que il y a une partie du corps politique qui ignore même le projet, mais j'ai envie de dire que il va aussi falloir qu'on arrête de compter uniquement sur les personnalités politiques pour faire des avancées sociales. À mon avis, si ça arrive, ça arrivera aussi surtout de la base. Et je pense qu'on en est capable. On est capable de porter des projets et de les mener à bien. Surtout que même notre position par rapport aux politiques qui sont censées être de notre bord, donc de gauche, des communistes, des socialistes, elle est ambiguë parce que il y a toujours ce risque de récupération qui l'applique pas selon nos principes, ou alors il faut aussi se dire que notre projet tel qu'il est appliqué, s'il était appliqué, ça leur retirerait même du pouvoir. En fait, l'objectif, c'est d'aller dans le sens de plus de pouvoir aux gens, aux individus, aux habitants, parce que si on a une meilleure alimentation avec 150 euros par mois, avec une carte vitale comme ça, ça veut dire qu'on a une situation plus stable, qu'on peut potentiellement faire tenir plus longtemps les mouvements sociaux et donc avoir plus de pouvoir.
Ou un esprit chagrin vous dirait travailler plus efficacement.
J'espère que j'ai pas trop divergé du sujet.
Non, mais on parlait du rôle que, enfin, vous voulez occuper une place qui se veut tout à fait subversive, parce que, et là on va reciter Bénédicte Bonzi, qui est docteur en anthropologie, et qui, dans nos colonnes notamment, et dans ses travaux, évoque cette violence symbolique donc de la mendicité organisée, et déplorait surtout le fait que l'État est dans une attitude finalement de laisser aller, en déléguant à la charge de la solidarité alimentaire aux seules associations de bout de ligne chargées de distribuer des aliments dont personne ne veut. Et en fait, vous proposez vraiment, vous parlez de changement de paradigme, cette nécessité de dépasser ce monde de l'aide alimentaire d'urgence pour penser une autonomisation des corps et des esprits, voire des papilles. Donc c'est en cela que vous êtes finalement vraiment révolutionnaire. Oui.
Surtout que l'aide alimentaire d'urgence, c'est plus ça maintenant. C'est une aide alimentaire systémique. L'aide alimentaire d'urgence est telle qu'elle était pensée par Coluche lorsqu'il a créé les Restos du Cœur. Pour lui, c'était quelque chose de ponctuel pour répondre à un moment donné à une crise dans la population. Mais maintenant, ça s'est installé comme un véritable système.
Quand l'urgence devient permanente. Oui, je pensais aussi au SAMU social, ouais, où on est un petit peu dans, ouais, dans le même paradigme.
Non, mais peut-être pour revenir sur la question politique, parce que c'est un sujet important. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est globalement, que ce soit de droite ou de gauche, on est quand même sur des personnes qui portent le système dominant et qui ont aucun intérêt à le changer. Et ça, c'est important aussi de le voir et de comprendre que quasiment l'ensemble des politiques qui sont mises en œuvre sont marketées, c'est-à-dire sont passées, sont des comment dire, des pas en arrière qui sont passés comme un pas positif. Je pense notamment au fait que c'est la gauche qui a décorrélé les salaires de l'inflation. Et donc, je pense que sur cette radio, à mon avis, l'auditorat est relativement éclairé sur ces sujets-là. Mais c'est important de se redire aussi que l'enjeu de la sécurité sociale, c'est de politiser et justement de tendre vers cette auto-organisation et clairement, encore une fois, de majoritairement, politiquement, il y a plus de récupération que d'aide à transformer les choses, en tout cas à l'échelle globale. À l'échelle locale, c'est autre chose.
Je pense que, effectivement, je pense qu'il n'y a qu'une... C'est un peu comme disait Martin, de toute façon, il n'y a que l'auto-organisation des habitants sur les territoires et la mise en place d'expérimentations et le maillage du territoire par ces expérimentations qui fera loi avant la loi, qui deviendra un fait politique par lui-même. Mais il y a une urgence absolue à mettre en place ces expérimentations, notamment à terme la possibilité de soumettre justement un manifeste pour les prochaines présidentielles et à terme aller vers un projet de loi. Mais s'il ne s'appuie pas sur une démonstration massive des territoires et des habitants, les politiques pourront toujours biaiser et essayer de revenir plutôt sur des questions de démocratie participative, alors que là, nous, on est dans un cadre de démocratie sociale où on veut remettre les gens au cœur de la décision et pas simplement attendre qu'ils votent et puis qu'ils revotent tous les 5 ans ou 6 ans et qu'ils laissent les politiques, les professionnels de la politique organiser et gérer tout cela, quoi. On voit les limites du sujet aujourd'hui et le fait que la démocratie aujourd'hui devient peau de chagrin parce que les gens n'ont plus aucun intérêt à être dans ce système démocratique qui n'a de nom, qui n'a que ce nom, quoi.
Que ce nom. Nous allons être pris par le temps avant de vous interroger sur les projets futurs et peut-être les appels à candidature. Je voulais juste inviter les auditeurs à s'intéresser à ce que fait l'atelier paysan notamment et de reposséder, entre guillemets, les agriculteurs notamment, des savoir-faire techniques et d'une alternance entre des savoir-faire ancestraux et la technologie. Et il ne s'agirait ni d'une idolâtrie absolue de l'objet technologique, ni du modèle Amish, CF, la personne dont nous avons parlé plus en amont de cette émission. Je ne peux pas m'étendre plus longtemps, malheureusement, mais dans vos défis futurs, vous parliez notamment de mise en réseau avec d'autres initiatives locales pour élargir le chantier, qui, on le voit bien, est enchevêtré de plein de problématiques. Comment se passe cette mise en réseau? Quel est votre futur proche ou à moyen terme? Mais
moi, je peux y aller. Nous, on a une approche un peu particulière de la sécurité sociale, puisqu'on prend l'axe de l'alimentation, mais notre axe principal, c'est les communs, puisque en fait, cette économie dont on parle, puisqu'il s'agit de transformer l'économie, aujourd'hui, elle est majoritairement détenue par des privés, et donc il suffit pas qu'on mette en place des caisses qui vont décider de cahier des charges, puisque si ces cahiers des charges ont pas l'économie qui permet d'y répondre, ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'économie qui permet d'y répondre. Et donc, nous, notre positionnement, il est de créer les conditions d'émergence, justement, de ces structures qui seront en capacité de pouvoir à la fois alimenter, mais aussi, on l'a dit, l'alimentation, c'est pas qu'une question d'alimentation, c'est une question de société. C'est-à-dire en fait, ça transforme. Je reprends un exemple très concret. Nous, on vient d'un supermarché coopératif à la base. Supermarché coopératif. Si on veut mettre en place, donc bien sûr, il y a tout l'enjeu de l'alimentation, de l'achat collectif, de l'alimentation, de l'achat groupé. Mais si on veut le mettre en place de manière collective, il faut du numérique pour pouvoir mettre en place le. Je vois les bouches qui se tordent, mais en tout cas, nous, on l'a vécu dans les faits. Sans numérique, c'est compliqué. C'était un supermarché de 1700 sociétaires, donc c'est pas rien. Il faut de la logistique, il faut donc en fait développer l'alimentation, c'est développer les autres grands axes. Il faut aussi de la formation, donc développer les autres grands axes du marché.
Nous, à l'échelle de la conserverie, ce serait pareil, développer les réseaux, mais donc plus localement. Et enfin, c'est ce qu'on essaye déjà de faire, de se coordonner avec les collectifs qui agissent déjà au niveau de la nourriture et de la redistribution à l'échelle locale, enfin de Saint-Denis, de Stein, du 93 peut-être plus grandement, Et aussi recruter nous au sein de nos rangs parce qu'on est assez petits, mais et donc pour à terme peut-être essayer de mettre en place des caisses une caisse alimentaire avec notre fonctionnement, ou en tout cas un espèce de conventionnement avec nos confiottes, ou donc se rallier à des grandes idées de la SSA, mais concrètement.
Très bien, je vous remercie. Bah écoutez, chers auditeurs, vous avez de quoi réfléchir, de quoi penser, de quoi peut-être débattre. Je vous invite à nous écrire. Oui, on me montre l'excellente bande dessinée dont le premier chapitre est disponible, c'est ça, sur les internets
Sur le site, effectivement. Et puis on peut commander les BD par lot de 5. Elles coûtent 2€ à l'achat, donc c'est pas...
La BD Encore des patates, hein, et vous tapez Sécurité sociale de l'alimentation dans n'importe quel moteur de recherche. Oui, on lève la main par ici.
Je ne sais pas si j'ai le droit de faire une annonce. Je voulais dire que si jamais vous habitez à Saint-Denis ou Estin et que le projet de la conserverie vous intéresse, on a une adresse mail, c'est conserveriesolidaires, tout attaché, 93@mailo.com.
Très bien, eh bien c'est pris en note. C'était donc l'émission mensuelle du journal indépendant de Paris et sa banlieue, Le Chiffon. Dans notre dernier numéro, nous vous proposons une dissection du ventre de Paris au travers d'une déambulation à Rungis, une histoire de l'alimentation à Paris et dans toute l'Île-de-France, une plongée dans le foncier agricole et une promenade dans les coopératives dionysiennes, entre autres sujets hors dossier. Pour trouver notre canard, plusieurs librairies associatives, comme le... Pardon, on me fait un signe avant que je donne.
On retrouvera les initiatives locales au niveau national et en région Île-de-France sur le site de la Sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, de façon déjà à regarder en région Île-de-France.
D'accord, très bien. J'étais sur les librairies disponibles, je peux vous en citer deux rapidement, la librairie Quilombo ou le Mont en l'air, ou des lieux associatifs des cafés du 12e arrondissement avec un petit QG autour de la place d'Aligre. Un journal pour le prix de 2 croissants, un abonnement pour le prix de 3 livres de poche. Le Chiffon, c'est une équipe de bénévoles de tous horizons qui se réunissent pour s'apprendre, s'entraider, se faire progresser et vous proposer un journal de qualité avec, s'il vous plaît, 3 générations de collaboratrices. De la jeune illustratrice aux retraités militants, avec tout ce que le spectre social peut rassembler au milieu, la faune est diverse chez nous. Alors de grâce, ne soyez pas timide, que vous soyez agrégé ou circassien, venez collaborer. Pour ça, un petit mail sur le-chiffon@riseup.net. Pour les noms anglophones, Riseup, R-I-S-E-U-P. On m'a déjà fait la remarque. Nos journalistes ne sont pas rémunérés mais passionnés. Alors si un sujet vous intrigue, vous révolte ou vous taraude, proposez-nous. C'était donc l'émission du Chiffon avec Gary à la technique. Jean-Marie Coutard, membre de la commission SSA des Amis de la Confédération Paysanne, et sa collègue... Qui est arrivé en dernier moment? Rappelez-moi votre prénom, pardonnez-moi.
Marion.
Merci beaucoup, pardon. Martin et Corinne de la Conserverie sociale et solidaire. Loïc, pardonnez-moi, je fatigue, de la coopération d'Ivry. Et pour tenter de vous réveiller derrière le micro, c'était Paul. Cette émission s'est tournée dans des conditions tout à fait particulières. Ce journal n'existe que par la passion de ses petites mains. Alors si vous êtes passionné et que vous avez des mains, venez donc à Ciao, bonne journée.